et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous vous parlons de la Bible. Nous désirons vous redonner courage dans votre marche quotidienne et faire grandir en vous l'espoir que Jésus donne.
Dieu, quels sont ses noms et que pouvons-nous apprendre de ses attributs? Yann et Robert répondront à ces questions tout en discutant sur Abraham.
Nous avons depuis plusieurs émissions parlé de la foi d'Abraham et de la manière dont cette foi l'a aidé dans diverses circonstances de sa vie. Aujourd'hui, nous allons aborder une question d'un autre ordre et demander qui était le Dieu en qui Abraham mettait sa foi. Nous accueillons Robert de nouveau.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Merci Robert. Alors, pourquoi est-il si important de savoir quelque chose sur ce Dieu en qui Abraham mettait sa foi?
Dans la vie en général, il est toujours prudent de savoir si quelqu'un ou quelque chose est digne de foi avant d'y mettre sa confiance. Par exemple, si nous devons monter dans un car pour nous rendre dans une grande ville, nous voulons savoir si ce véhicule y arrivera sans tomber en panne et si le conducteur a les compétences nécessaires pour conduire sans provoquer d'accident. S'il y a de bonnes raisons de douter de ces choses, de deux choses l'une. Soit nous effectuerons le trajet rempli de crainte et d'angoisse, soit nous resterons chez nous. Mais au contraire, si nous avons confiance, nous entreprendrons le voyage sans inquiétude. Lorsqu'il s'agit de questions d'ordre spirituel, il est encore plus important de savoir en qui nous mettons notre foi et si le Dieu en question est à la fois vrai et digne de confiance. Parfois, dans la vie, nous pouvons découvrir qu'une personne n'est pas digne de confiance et que notre foi en elle était mal placée. Les conséquences en sont parfois coûteuses et douloureuses. Il en est de même pour la vie spirituelle. Si notre foi est mal placée, mise en une personne ou un objet qui n'est ni vrai ni digne de confiance, les conséquences peuvent s'avérer catastrophiques.
Comment donc Abraham a-t-il appris à connaître Dieu et à acquérir cette assurance qu'il était digne de confiance?
Abraham a appris à connaître Dieu parce que ce dernier lui est apparu à plusieurs reprises dans sa vie.
Et ce Dieu apparaît-il aux hommes et aux femmes de la même manière aujourd'hui?
Je dirais que non.
Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, nous avons d'autres moyens de le connaître, notamment par les Écritures, la Bible. En même temps, j'affirmerai que Dieu ne change pas.
Et pourquoi dites-vous cela? En quoi Dieu ne change-t-il pas?
Le Dieu en qui Abraham mettait sa foi n'était pas un Dieu qui voulait se cacher des hommes. Au contraire, il est un Dieu qui se révèle, un Dieu qui désire se faire connaître, un Dieu qui se laisse découvrir. Il est venu à la rencontre d'Abraham. Il voulait s'impliquer dans sa vie, tout comme il souhaite le faire aujourd'hui pour chacun d'entre nous. En cela, Dieu n'a pas changé, même si aujourd'hui sa façon de le faire s'est peut-être modifiée. Aujourd'hui, nous avons toute la révélation de Dieu dans une forme écrite, un livre que nous appelons la Bible. C'est en la lisant que nous découvrons Dieu et que nous apprenons à lui faire confiance.
Et Abraham qu'a-t-il découvert lorsque Dieu lui est apparu?
Dans le récit de la vie d'Abraham, Dieu se présente sous des noms différents. Il est important de comprendre qu'à cette époque, le nom d'une personne dévoilait quelque chose de son caractère. Ainsi, par une étude des noms attribués à Dieu, nous pouvons construire une image de son caractère.
Alors, quels sont les noms du Dieu qui s'est révélé à Abraham et que devons-nous en retenir?
J'en ai repéré au moins 6. Je les passerai en revue un par un.
Et quel est le premier?
Celui qui apparaît le plus souvent est l'Éternel. C'est un nom qui évoque la grandeur d'un Dieu infini, d'un Dieu qui n'a ni commencement ni fin, qui a existé avant que l'univers fût créé et qui existera pour toujours. Ensuite, nous trouvons le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Ici, il est important de comprendre que Dieu s'élève au-dessus de tout pouvoir, qu'il soit humain ou spirituel. Il est établi comme le Seigneur de tout et de tous. À cette époque-là, beaucoup adoraient des idoles. Les dieux de la nature ou des dieux régionaux, spécifiques à chaque tribu ou à chaque ville. Le Dieu Très-Haut, celui qui est maître du ciel et de la terre, se présente comme un Dieu universel, le seul vrai Dieu, qui est Seigneur de tous, sans exception aucune. Ce Dieu est tellement élevé qu'à côté, les autres dieux, les idoles, sont réduits à rien.
Mais si nous acceptons l'idée que Dieu soit si grand et majestueux, ne pouvons-nous pas avoir l'impression qu'il est trop distant et lointain pour s'intéresser à nous? Est-ce pour cela que certains se tournent vers des idoles ou d'autres puissances spirituelles, parce qu'elles ont l'air plus proches, plus impliquées dans leur vie?
C'est ce que certains prétendent, mais je voudrais démontrer que c'est faux. D'abord, se tourner vers le monde des puissances occultes, c'est mal placer sa foi, car ces puissances tiennent les gens en esclavage par la manipulation et la crainte. Elles appartiennent à un monde trompeur et dangereux. Par contre, nous n'avons vu que deux des noms qu'Abraham a attribués à Dieu. Et les suivants montrent que le Dieu très haut est en fait très proche de ceux et celles qui mettent leur foi en lui.
Alors, quels sont les noms de Dieu qui vous permettent d'affirmer cela?
Prenons d'abord ce que Dieu dit à Abraham en Genèse chapitre 15. « Je suis ton bouclier ». Et ensuite, le nom qu'Agar a attribué à Dieu en Genèse chapitre 16. Dieu voit. Alors, concernant l'occasion où Dieu dit à Abraham « Je suis ton bouclier », le contexte est très intéressant. Abraham venait de passer par des moments difficiles. Des hommes armés venant d'une alliance de plusieurs tribus ont attaqué la ville où séjournait Lot, le neveu d'Abraham, et ils l'ont pris en otage. Par la suite, Abraham a monté sa propre expédition militaire afin de porter secours à son neveu. Entreprise réussie. Abraham fut-il secoué par cet épisode? Quand Dieu dit « Je suis ton bouclier », il prend une image militaire qui ne peut être que bien comprise dans de telles circonstances. À travers cette image, Dieu rassure Abraham. Il lui dit en fait « Je suis ton protecteur. Je suis avec toi pour assurer ta sécurité. Il n'y a pas de raison d'avoir crainte. » Ce message demeure à propos pour le croyant aujourd'hui. Un bouclier est quelque chose que l'on attache au bras afin de se protéger. On ne peut pas être plus proche que ça. Dieu est donc très proche. Il s'intéresse à notre bien-être et à notre sécurité.
Merci, et le nom Dieu voit. Le contexte est la fuite d'Agar dans le désert, me semble-t-il.
Tout à fait. Agar a subi une injustice de la part de Sarah, femme d'Abraham. Elle fut chassée du foyer et s'est retrouvée dans un environnement hostile et aride. Malgré le fait qu'elle ne fût qu'une esclave, elle a eu la conviction profonde que Dieu a vu tout ce qui lui était arrivé. Dieu a vu l'injustice. Dieu a vu sa situation difficile et précaire. Mais cette affirmation de foi « Dieu voit » implique aussi que Dieu était avec elle pour apporter son secours. Aux yeux du monde, Agar ne représentait peut-être pas grand-chose, mais aux yeux de Dieu, elle avait de la valeur. Dieu s'intéressait personnellement à sa situation et il a assuré son bien-être. Nous pouvons puiser beaucoup de réconfort et d'assurance dans cet épisode biblique.
Merci Robert pour ces réflexions si enrichissantes. Notre temps est malheureusement déjà passé. Il reste encore deux noms de Dieu que nous n'avons pas pu évoquer aujourd'hui. Mais nous y reviendrons une prochaine fois.
Dieu, le Créateur de l'univers, est proche de chacun d'entre nous. Quelle merveilleuse vérité de savoir qu'il s'intéresse ainsi à nous. Dans un instant, lors de sa méditation sur un texte de la Bible, Yuva va nous rappeler que Dieu s'est aussi approché de nous en la personne de Jésus-Christ. Je vais tout d'abord lire le texte de la Bible qui parle de cela. Il se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 et verset 17. On donne à Jésus le livre du prophète Ésaïe. Il ouvre le livre et trouve le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. »
Dans une bourgade peu connue du Moyen-Orient, il y a environ 2000 ans, un homme a annoncé qu'il allait changer le cours de l'histoire et marquer notre monde jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de Jésus, qui, selon le texte biblique lu tout à l'heure, a affirmé être venu accomplir les grands desseins et les promesses de Dieu. Il a pris des prophéties bibliques, parlant de la venue d'un envoyé de Dieu par excellence, et a dit « Me voilà, ces textes parlent de moi, c'est maintenant le moment que Dieu a choisi. » Toutefois, Avant d'annoncer sa mission, Jésus a affirmé son identité. Cet homme d'un milieu modeste dit de lui-même « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi. » Il s'agit d'une citation du prophète Ésaïe. Ésaïe a souvent parlé d'une personne choisie par Dieu, qui devait venir et qu'il a nommé le serviteur de l'Éternel. Celui-ci accomplirait de grandes choses en Israël et au-delà, mais seulement parce qu'animé de l'Esprit de Dieu. En effet, les projets et les desseins envisagés par les prophètes et accomplis par Jésus sont au-delà des capacités humaines. Ils nécessitent la présence de la puissance de Dieu. Jésus a assuré à ses auditeurs que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Quand l'Esprit de Dieu est sur un homme, il lui permet de parler de la part de Dieu. Il s'agit d'un esprit prophétique qui dévoile la parole que Dieu voudrait adresser aux hommes. Il s'agit aussi d'un esprit de puissance qui permet d'accomplir des miracles et des prodiges. Peu de temps avant ce discours, Jésus est passé par les eaux de baptême. La foule présente à cette occasion a vu de ses propres yeux l'Esprit de Dieu descendre du ciel pour rester sur Jésus. De plus, une voix venant du ciel, celle de Dieu, le Père, a annoncé « Tu es mon Fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie ». Donc, les propos de Jésus ne sont pas un bavardage sans valeur et ne résultent pas d'une illusion. Jésus a vécu quelque chose de concret, unique et extraordinaire, que des personnes autour de lui ont vu et ont entendu. Jésus avait toutes les raisons de savoir qu'il était bel et bien le Fils de Dieu. Choisi par Dieu, animé de l'Esprit de Dieu et envoyé par Dieu pour accomplir des choses merveilleuses. Il allait, sous peu, appuyer ses paroles par des actes qui prouveraient effectivement que lui, Jésus, accomplissait ce que Dieu seul pouvait accomplir. Les esprits mauvais fuyaient sa présence. Les vents et les vagues obéissaient à sa parole. Les pains et les poissons se multipliaient entre ses mains. Les malades et les invalides repartaient complètement et parfaitement guéris. Et des morts reprenaient vie. Finalement, en l'entendant parler, beaucoup reconnaissaient en Jésus la voix divine. Le disciple Matthieu, dans l'évangile portant son nom, attribue à Jésus le nom d'Emmanuel, qui veut dire « Dieu avec nous ». On ne peut que conclure, l'Esprit du Seigneur était sur Jésus, envoyé par Dieu pour faire des merveilles, tout comme il avait dit.
Merci, Youve, de nous avoir donné tant de bonnes raisons afin de croire en celui que Dieu a envoyé pour accomplir une œuvre de salut.
Et la prochaine fois, nous parlerons du salut offert par Jésus. Pour cela, Youva nous expliquera en quoi consiste la bonne nouvelle annoncée par Jésus aux pauvres.
Abraham a dit de Dieu, « Il est le Tout-Puissant et le Dieu qui pourvoit ». Voici une autre bonne nouvelle dont nous vous parlerons la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.